Bon, essayons d'imaginer un truc. On prend une application ultra gourmande en données, genre une intelligence artificielle de 2026,
D'accord.
et on essaye de la faire tourner sur un vieux système d'exploitation, un ordinateur conçu en 1962.
Ah bah l'écran va figer direct.
Exactement. L'appareil surchauffe et tout le système finit par s'effondrer parce que l'architecture de base n'est pas prévue pour ça.
Ouais, c'est l'image parfaite en fait. C'est exactement la métaphore de notre analyse d'aujourd'hui, ce décalage technologique.
Complètement. C'est vraiment le constat qui saute aux yeux quand on se plonge dans le corpus du jour.
Donc on parle de l'édition de mai 2026 du magazine iDébat, publié par l'OGM Média.
C'est ça. Et bon, décortiquons tout ça, parce que notre mission avec cette exploration, c'est de comprendre ce fossé qui grandit à une vitesse folle.
Le fossé entre les discours institutionnels et politiques
Qui sont clairement restés à l'ère analogique, oui.
et de l'autre côté, les réalités de la société qui, elles, mutent à la vitesse de la fibre optique.
Et pour illustrer ça, le magazine nous donne des cas super concrets, surtout au Maroc et au Sénégal. Il faut juste qu'on pose un petit cadre intellectuel avant de démarrer.
Oui, vas-y.
Dans ces articles, il y a des critiques politiques assez fortes, notamment envers le gouvernement Akanouche au Maroc ou le parti PASTEF au Sénégal.
Ouais, des sujets sensibles.
Voilà. Donc c'est important de rappeler qu'on garde une neutralité stricte ici. Notre but, c'est pas de prendre parti, c'est vraiment de refléter et d'analyser le contenu de ces sources de la manière la plus objective possible. Super important de le préciser, en effet. Alors, pour comprendre ces politiques au pouvoir, il faut d'abord regarder comment ils y arrivent, non?
Logique. Et ça tombe bien, on a les élections législatives marocaines de septembre 2026 en ligne de mire.
Et là, la source s'attaque direct à un énorme mythe, le mythe de l'électeur rationnel.
Ah oui, cette idée que les partis politiques s'imaginent encore que l'électeur est une sorte de comptable méthodique.
Genre, il s'assoit avec un café, il lit tous les
Il
bilans.
compare les programmes et il fait son choix avec une logique implacable une fois dans l'isoloir.
Alors que pas du tout. En vrai, le choix se fait émotionnellement bien avant. C'est les programmes politiques, c'est un peu comme les conditions d'utilisation d'une mise à jour logicielle.
Comment ça?
Personne ne les lit. On scrolle jusqu'en bas et on clique sur accepter en se basant uniquement sur la confiance qu'on a envers la marque à cet instant précis.
Ah, c'est une excellente analogie. L'article détaille justement ce qui provoque ce fameux clic de confiance. Il parle de sept leviers inconscients de l'électeur.
Sept leviers. Attends, il y a quoi là-dedans?
Alors on a l'autorité, mais pas dans le sens des slogans creux, plutôt la cohérence. Ensuite, la réciprocité.
Ah, ça m'a marqué. La réciprocité, c'est le fait d'être sur le terrain tout le temps, c'est ça?
Exactement. On ne peut pas ignorer les gens pendant 5 ans, débouler pour 13 jours de campagne et demander des voix. Il y a aussi la preuve sociale, l'appartenance, l'anticipation, la rareté et enfin le résultat.
Le résultat, c'est-à-dire le vote pour l'espoir d'une vie plus digne, en fait.
Voilà. Mais le plus fascinant ici, c'est ce qui se passe en coulisses avec la fameuse logique de la Tasquilla.
L'investiture par le parti.
Oui, et la source explique que ce système exclut très souvent les profils vraiment compétents, les jeunes, les femmes, s'ils n'ont ni l'argent ni le réseau.
Ouais, ça favorise à fond le clientélisme.
Complètement. On cherche le candidat notable qui a déjà un réservoir de voix et de l'argent. Et c'est hyper dangereux parce que ça entraîne une abstention massive.
Ce qui fait qu'une poignée de voix, disons 1 million de voix biaisées par cette attente de rétribution locale, ça suffit pour créer une force gouvernementale.
Une force qui se retrouve du coup totalement déconnectée de la réalité du pays.
Et c'est là qu'on tape dans le mur. Que se passe-t-il quand ces élus choisis de façon émotionnelle ou clientéliste doivent gérer le vrai quotidien de l'État?
Le retour à la réalité est brutal. Si on regarde le bilan de la législature 2021-2026 au Maroc, que l'auteur de la source n'hésite pas à qualifier de horrible bilan d'ailleurs,
Ouais, le terme pique un peu.
c'est le moins qu'on puisse dire. Il pointe une baisse du pouvoir d'achat, un chômage qui grimpe, mais aussi et surtout une série de scandales éthiques.
Des ministres pris la main dans le sac, c'est bien ça.
Oui, des histoires d'affaires immobilières familiales, de prévarication, de conflits d'intérêts.
C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la façon dont ces affaires éclatent a complètement changé.
Exactement. Ce n'est plus l'opposition ou la presse classique qui mène la danse. La source parle de l'émergence d'une justice menée par les lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux.
C'est fou, c'est Twitter ou TikTok qui font le boulot de contrôle.
C'est ça. Le digital force les institutions officielles à réagir.
Mais le pire, c'est quand on regarde les lois elles-mêmes. On dirait vraiment que l'État tente de faire tourner notre fameuse application de 2026 sur le système de 1962.
L'exemple du code pénal dans l'article est frappant pour ça. Le texte date de 1962. Il y a eu un projet de réforme en 2016
qui a été bloqué.
Bloqué, oui, et carrément retiré en 2022. Parce qu'on est face à un ordre public qualifié de hybride, tiraillé entre la modernité et un référentiel religieux lourd.
Et pendant que ça bloque, la réalité, elle, ne fait pas de pause. L'article lâche des chiffres chocs.
Lesquels ?
Accroche-toi. 26 884 viols recensés. Et entre 600 et 800 avortements par jour.
C'est astronomique.
C'est glaçant. Et en face de ça, la nouvelle loi sur les peines alternatives a donné quoi ? Seulement 18 décisions de bracelet électronique appliquées. 18 !
L'incapacité systémique à générer un consensus est évidente. Ça bloque sur le code pénal, mais aussi sur la Moudawana, le code de la famille, ou sur les caisses de retraite qui restent en suspens.
Mais pourquoi ils temporisent autant ?
L'auteur explique que le silence et la temporisation de l'exécutif face aux conflits d'intérêts ou aux sujets de société divisants créent une rupture de confiance majeure. L'État préfère ne rien faire plutôt que de trancher, ce qui abîme le lien avec les citoyens.
Sauf que la société marocaine, elle, fait sa propre mutation en silence à une vitesse folle.
Et c'est une mutation tirée par plusieurs événements récents. La période post-Covid, bien sûr, mais aussi l'épopée de l'équipe nationale de foot au Qatar.
Oh oui, ça a soudé tout le monde, ça.
Ça a créé une fierté diplomatique et populaire immense. Et puis, il y a l'émergence de la Gen Z, une jeunesse qui est décrite comme décomplexée et totalement intransigeante.
Intransigeante sur ce qu'elle attend de la vie, oui. D'ailleurs, il y a un basculement démographique super important mentionné dans les sources. La taille de la famille rétrécit.
On est passé de 5,9 personnes par ménage en 1994 à moins de 4 aujourd'hui.
Au fond, est-ce que la famille n'était pas de plus grands sous-traitants gratuits de l'État pendant toutes ces décennies ?
C'est exactement le terme. La famille a longtemps servi d'État social informel. C'est elle qui absorbait les chocs économiques, qui compensait quand les politiques publiques étaient défaillantes.
Et c'est un poids qui pesait de manière disproportionnée sur les femmes, non ?
Complètement. Sauf que ce système, il n'est plus tenable aujourd'hui.
Le contrat d'abonnement gratuit est expiré, en gros.
C'est ça. Si on relie ça à une vision plus globale, l'auteur souligne que l'autonomie individuelle grandissante, son protection institutionnelle, ça produit juste de l'incertitude et de la précarité.
Ce qui rend l'inclusion politique encore plus cruciale. D'ailleurs, les chiffres de la fondation Connecting Group cités dans l'article sont dingues sur l'inclusion des femmes.
Oui, elles représentent plus de 50% de l'électorat, mais on ne les retrouve qu'à hauteur de 24% des sièges au Parlement.
Et à peine 8 à 9% dans les bureaux politiques des partis politiques.
Le décalage est massif. C'est pour ça que l'État social formel doit impérativement remplacer ce que la famille gérait implicitement avant. Le nouveau modèle de développement appelle ça l'urgence d'une gouvernance territoriale intelligente.
Au lieu d'une simple bureaucratie régionale de plus, quoi.
Exactement. Il faut des politiques qui répondent aux vrais besoins locaux, sinon ça coince.
Bon, alors ça, c'est pour un gouvernement bien installé, qui a du mal à faire ses mises à jour. Mais ce défi de l'adaptation face à une population hyper exigeante, ce n'est pas qu'au Maroc. Regardons le Sénégal.
Ah, le cas sénégalais est passionnant. On a assisté à une transition démocratique exceptionnelle, vraiment. Macky Sall qui laisse le pouvoir à Diomaye Faye et Ousmane Sonko du PASTEF.
C'était historique, ouais. Sauf que l'article montre bien que le passage du rôle d'opposant à celui de gouvernant, c'est pas la même tisane.
Pas du tout. Le discours souverainiste et populiste, ça marche très bien pour gagner des élections. Mais face à la fragilité de l'administration, le fossé se creuse vite.
Il y a un exemple précis qui m'a scotché. L'histoire de la dette cachée.
Oui, c'est l'erreur classique du nouveau pouvoir. Ils ont utilisé cette idée de dette cachée comme une arme politique pour humilier l'ancien régime.
Pour dire « Regardez, ils vous mentaient, les caisses sont vides ».
Voilà. Sauf que le résultat, c'est que ça a totalement affolé les marchés financiers internationaux.
Bah oui, les investisseurs se disent « Oula, c'est instable ici ».
Conséquence directe, le Sénégal a été forcé de s'endetter à des taux absolument punitifs. C'est le retour de bâton.
Du coup, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? C'est un peu le syndrome du chien qui court après la voiture. Pendant des années, il court après, il aboie, et le jour où il l'attrape enfin, ils n'ont aucune idée de comment la conduire.
C'est une super métaphore. Et ça soulève une question importante posée par la source. Le danger pour un État de devenir l'otage de son propre récit.
C'est-à-dire ?
Si ta seule grille de lecture, c'est de blâmer l'étranger, le passé ou l'ancien gouvernement, à un moment, ça ne suffit plus pour gérer le quotidien. L'examen réel, ce n'est plus la critique du passé.
C'est la capacité à gouverner le présent sans partir dans le décor.
Exactement. Il faut éviter le double dérapage. Ni un effondrement sécuritaire chaotique à la sahélienne, ni un naufrage économique de type vénézuélien.
Et il y a aussi un blocage bureaucratique interne au Sénégal dont parle le magazine. Une histoire de dualité de la légitimité.
Ah oui, entre le président et le premier ministre. Cette dualité crée un flou. Et face à ça, la bureaucratie sénégalaise a adopté une posture fascinante. Une résistance silencieuse par l'obéissance.
J'adore ce concept. En gros, les fonctionnaires appliquent les ordres à la lettre, même s'ils savent que c'est une mauvaise idée, juste pour voir le truc se casser la figure et dire « bah, j'ai juste obéi au chef ».
C'est ça, ils se protègent et ça fige complètement l'action publique.
C'est fou. Alors que ce soit la rhétorique au Sénégal ou les bilans au Maroc, tout est finalement question de cadre, tu vois, de ce qu'on choisit de montrer ou de cacher.
L'illusion de l'image. Et l'auteur de e-débat illustre ça avec deux exemples incroyables. Un match de foot et l'urbanisme.
Commençons par le foot. Le match entre Safi et l'USM Alger le 19 avril 2026.
Ce qui s'est passé est un cas d'école. La caméra principale de beIN Sport, celle que tout le monde voit en direct, montre un envahissement du terrain par des supporters marocains.
Donc, la réaction pure et dure. Sur le coup, tu te dis « ok, ils sont en tort, c'est clair ».
Sauf que, quelques heures plus tard, les réseaux sociaux révèlent leur hors-champ. Des vidéos amateurs montrent des jets de chaises préalables par des supporters algériens.
Donc la cause initiale, c'est dingue. Le direct capte un instant précis, mais il ampute complètement la chronologie de l'événement.
C'est le piège de la caméra unique. L'image est vraie, mais elle n'est pas entière.
Et l'auteur fait le parallèle avec la géographie, ce que j'ai trouvé super original, avec les villes de Rabat et de Salé.
Oui. Souvent, la perception médiatique ou institutionnelle sépare les deux. Salé, c'est l'histoire. La tombe Mohamed VI, l'aéroport, l'académie de foot.
Et le couscous d'Harry, faut pas l'oublier.
Évidemment. Et de l'autre côté, Rabat possède toute l'aura institutionnelle, les ministères, le pouvoir. Mais la source propose carrément de fusionner les deux identités.
De créer un Rabat Salé, j'adore l'idée. C'est un peu le Budapest marocain, non? Comme la fusion en 1873.
C'est exactement l'analogie de l'article. Il faut réunir ces 1,5 million d'habitants sous une même bannière pour refléter la véritable force de la région au lieu d'utiliser des rhétoriques médiatiques séparatistes qui faussent la réalité.
Parce que juger l'incident du football avec une seule caméra, c'est finalement comme juger une métropole entière en ne regardant que son quartier administratif. On rate tout le reste.
C'est une excellente synthèse. Que ce soit à la télévision ou en politique, la vérité exige de croiser les regards. Il faut toujours chercher le hors-champ.
Bon, si on prend un peu de recul sur tout ça. La source dépeint un monde, que ce soit au Maroc ou au Sénégal, où la société, la géographie, les attentes des citoyens, ça bouge vraiment à la vitesse de la fibre optique.
Tandis que les politiciens, les lois bloquées de 1962, et même les caméras de télévision classiques sont encore coincées à l'ère analogique.
C'est vertigineux. Ça m'amène à une pensée finale, un truc qui me trotte dans la tête depuis qu'on a commencé.
Je t'écoute.
Si toutes ces institutions traditionnelles perdent leur monopole, je veux dire, la famille qui n'est plus la sécurité sociale par défaut, le Parlement qui ne reflète plus la vraie volonté populaire, la télé qui n'a plus le monopole de la vérité.
Ouais, tout ça s'effrite.
Ben, quelle forme radicalement nouvelle de contrat social ou de solidarité ces citoyens ultra connectés et super méfiants vont-ils créer de toutes pièces dans les prochaines années pour pallier ces failles? Parce qu'ils ne vont pas juste attendre sagement que le logiciel se mette à jour.
C'est la grande question. Ils vont forcément inventer leur propre système parallèle. C'est une réflexion fascinante à méditer.
Complètement. Une zone grise qui va être passionnante à observer. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. C'était vraiment riche.
Avec grand plaisir. Le corpus était particulièrement dense aujourd'hui.
C'est clair. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt.